Chapitre 27. À part son pouce et son index qui jouaient distraitement avec l'os rond de son collier, Callahan était parfaitement immobile en étudiant la ville qui s'étendait à ses pieds. Le versant de la colline descendait en pente douce vers les murs d'enceinte, les tours du palais se dressant à l'extrémité nord de la ville. Des volutes de fumée montaient des centaines de cheminées de pierre des habitations. De là où était l'inquisitrice, on ne distinguait pas de mouvement. La route qui conduisait aux portes principales était déserte, comme les plus petits chemins qui desservaient les accès secondaires. Un manteau de neige couvrait le paysage et un vent froid faisait trembler les poils de l'épais manteau de fourrure blanc que portait Callahan. Prindine et Tossidine lui avaient fabriqué le vêtement pour la protéger des vents glaciaux qui balayaient les plaines désolées qu'ils avaient dû traverser pour arriver là. Les loups étant d'un naturel méfiant, surtout vis-à-vis des humains, on les voyait rarement, et Callahan ne savait pas grand-chose d'eux. Les flèches des deux frères avaient trouvé leur cible alors que l'inquisitrice n'avait même pas remarqué leur présence. Si elle n'avait pas vu Richard tirer, elle aurait cru cet exploit impossible, mais ils étaient presque aussi bons que lui. Bien qu'elle eût toujours éprouvé une vague inimitié pour ces animaux, Callahan n'avait jamais vraiment eu de problème avec eux. Et depuis que Richard lui avait parlé de la cohésion de la meute, presque une famille, elle les trouvait beaucoup plus sympathiques. Elle avait d'abord refusé que les hommes d'Adobe abattent les deux loups pour lui faire un manteau, mais ils avaient insisté, arguant que c'était nécessaire, et elle avait dû capituler. Le dépeçage lui avait retourné l'estomac. Voir apparaître les muscles rouges sous la peau, puis les tendons et les os, la substance même de l'être, si élégante quand la vie l'animait, et tellement morbide lorsqu'elle n'était plus là. Pendant que les deux frères écarissaient les loups, Callahan avait pensé à Brophy, l'homme qui avait exigé d'être touché par son pouvoir pour démontrer son innocence. Transformé en loup par Giller, le seul moyen de le libérer en partie de l'emprise de l'inquisitrice, il avait pu commencer une nouvelle vie. Les compagnons de meute des deux loups sacrifiés pour lui faire un manteau seraient-ils aussi tristes que ceux de Brophy quand il avait été abattu par des Minnas? Callahan avait vu trop de tueries, et cela semblait ne jamais vouloir finir. Au moins, les hommes d'Adobe ne s'étaient pas réjouis d'avoir ôté la vie à ces splendides animaux, et ils avaient adressé une prière aux esprits à la gloire de leurs frères loups, comme ils les avaient appelés.
« Nous ne devrions pas faire ça !»
grommela Shandalen. Appuyé sur sa lance, il la regardait fixement. Callahan le sentait, mais elle ne détourna pas les yeux de la ville trop silencieuse et tranquille. Le chasseur avait un ton moins agressif qu'à l'accoutumée, sans doute parce que c'était la première fois qu'il voyait une cité de la taille d'Ebinicia. Shandalen ne s'était jamais aventuré aussi loin du territoire de son peuple. En découvrant la capitale de Galéa, il avait écarquillé les yeux, sa langue acérée lui faisant pour une fois défaut. Aux yeux d'un homme qui avait vécu dans un village au milieu des plaines, un tel miracle d'architecture devait passer pour de la magie. Callahan eut un pincement au cœur. La vision du monde de ses trois compagnons allait voler en éclats au cours de ce voyage, et elle n'était pas sûre que ce soit un service à leur rendre. « Shandalen, » dit-elle, « j'ai fait de gros efforts, pratiquement à chaque seconde de veille, pour vous apprendre à tous les trois à parler ma langue. Là où nous allons, personne ne pratique la vôtre. Jugez-moi malveillante si ça vous chante, ou reconnaissez que j'ai agi pour votre bien. Ce que vous pensez m'est égal, mais utilisez pour vous adresser à moi la langue que je vous ai enseignée.
« Je dois te conduire en Aïdindril, » répondit le chasseur. « Nous ne devrions pas perdre de temps ici. »
Son ton était redevenu plus acerbe, mais il ne parvenait toujours pas à dissimuler l'humiliation qui le saisissait à la vue d'Ebinicia. Pourtant, il n'était qu'au début de ses surprises. Et Callahan s'inquiétait, car elle avait cru distinguer en arrière-plan un sentiment qu'elle n'aurait jamais cru possible chez cet homme, de la peur. Comme s'il jugeait maléfique le spectacle qui s'offrait à lui. Les yeux plissés pour les protéger du reflet du soleil sur la neige, Callahan regarda les deux silhouettes à ses pieds s'attaquer à la pente.
« Je suis la mère inquisitrice, » dit-elle. « Mon devoir est de protéger tous les peuples des contrées du milieu, comme je protège les hommes d'Adobe. »«
Tu n'as pas aidé les miens. Des ennuis, voilà tout ce que tu leur as apporté. »
Des imprécations davantage dictées par l'habitude, comprit Callahan, que par un réel ressentiment.
Ne recommence pas, Chandalen, soupira-t-elle.
Grâce en soit rendue aux esprits, le chasseur n'insista pas, mais il trouva vite une autre raison de râler.
Prindine et Tossidine ne devraient pas gravir cette colline à découvert. Je croyais leur avoir appris à être moins idiots. Si c'était des enfants, ils auraient droit à une fessée. Tout le monde peut voir où ils vont. Vas-tu enfin m'écouter et cesser aussi de t'exposer à tous les regards ?
Callan se laissa entraîner à l'abri d'un bosquet. Non qu'elle jugeât cela nécessaire, mais elle voulait montrer au chasseur qu'elle appréciait ses efforts pour la garder en sécurité. Très mécontent de se voir imposer ce voyage, Chandalen avait néanmoins accompli son devoir. Mais en ronchonnant, alors que les deux frères étaient tout sourire et couvraient l'inquisitrice d'attention. Au point parfois de l'embarrasser. Si leur sollicitude était sincère, leur chef voyait cette mission comme une corvée dont il devait, honneur oblige, s'acquitter de son mieux.
« Nous devrions partir, » grogna-t-il.
« Je dois savoir ce qui se passe ici, c'est mon devoir. »«
J'avais cru comprendre en t'écoutant que ta mission était de gagner Aydindril, comme l'a demandé Richard au Sancho. »
Kala ne répondit pas. Le jeune homme lui manquait atrocement. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait son expression au moment où il s'était cru trahi par elle. Ah, comme elle aurait voulu pouvoir se jeter à genoux et expulser de sa gorge le cri qu'elle n'avait pas pu pousser à cet instant-là. Un hurlement d'horreur face à ce qu'elle venait de faire. Mais aurait-elle pu agir autrement? Si toutes les données dont elle disposait étaient exactes, pour réparer le voile, il fallait d'abord que Richard subisse le supplice du Radahan. C'était aussi tragiquement simple que ça. Et cet impératif lui avait dicté sa décision. Tôt ou tard, le jeune homme comprendrait. Il le fallait. Si elle avait réfléchi sur la base d'informations erronées, ce qui restait possible, elle aurait condamné pour rien l'homme qu'elle aimait à revivre son pire cauchemar.
Richard regardait-il souvent la mèche de cheveux qu'elle lui avait donnée? Pensait-il à elle? Trouverait-il au fond de lui-même la force de comprendre et de pardonner? Elle aurait tant voulu pouvoir lui dire combien elle l'aimait, le serrer dans ses bras. À défaut, son seul désir était de rejoindre Zed pour obtenir son aide. D'abord, elle devait savoir ce qui s'était passé ici.
Elle se redressa de toute sa taille et adopta son masque d'inquisitrice. À l'origine, elle avait l'intention d'éviter Ibinitia, mais ces deux derniers jours, ils avaient voyagé à travers des plaines jonchées de cadavres de femmes gelées. Pas un seul homme, rien que des femmes, de l'enfance à la plus grande vieillesse, et tout à demi nus. Si la plupart des dépouilles étaient isolées, ils avaient découvert quelques petits groupes de malheureuses, blotties les unes contre les autres dans la mort. Trop épuisées, effrayées ou désorientées pour avoir l'idée de chercher un abri, elles avaient sombré dans un sommeil dont elles ne se réveilleraient jamais. Ces malheureuses avaient fui la ville paniquées au point de ne plus redouter le froid. Presque tout avait été violé avant de fuir. Callan savait que cela expliquait leur fuite suicidaire. Ses trois compagnons en avaient conscience aussi, mais aucun ne l'aurait admis à voix haute. Callan resserra autour d'elle les pans de son manteau. Ces atrocités ne pouvaient pas avoir été commises par les soldats de Dara, car elles étaient trop récentes. Les troupes d'occupation avaient été rappelées chez elles, et des militaires, même ceux qui avaient servi d'Arkenral, n'auraient pas perpétré pareilles horreurs en sachant la guerre finie. Décidant qu'elle avait assez tergiversé, Callan sortit du bosquet et commença à descendre la pente. À force d'entraînement, elle s'était habituée aux longues enjambées qu'imposaient les raquettes que les hommes d'Adobe lui avaient fabriquées avec des morceaux de saule et des tendons de petits animaux. Bien entendu, Chandalen se lança à sa poursuite.
« Tu ne dois pas y aller, il peut y avoir du dangereux. »«
Du danger ?» corrigea Callan. « Si c'était le cas, Prindine et Tossidine n'avanceraient pas à découvert. Accompagne-moi ou reste ici, mais j'y vais. »
Comprenant que polémiquer serait inutile, le chasseur la suivit, plongé dans un silence très inhabituel pour lui, mais fort bienvenu. Le soleil de l'après-midi, pourtant magnifique, ne parvenait pas à réchauffer l'air glacial. En général, le vent se déchaînait aux abords des monts Rangshada, mais par bonheur, il s'était calmé aujourd'hui. Il n'avait pas neigé depuis des jours, des conditions climatiques favorables à une progression plus rapide. Cela dit, chaque inspiration continuait de glacer les voies respiratoires de la jeune femme. Elle rejoignit les deux frères au milieu de la pente. Ils s'arrêtèrent et s'appuyèrent sur leurs lances, haletant comme des chevaux épuisés. la première fois qu'elle les voyait ainsi, car ils semblaient infatigables, mais les pauvres n'étaient pas accoutumés à l'altitude.
« Mère inquisitrice,
halta Prindine,
tu ne dois pas y aller. Ces gens ont été abandonnés par les esprits de leurs ancêtres. »
Callan décrocha son outre de sa ceinture et l'attira dessous son manteau où sa chaleur corporelle empêchait l'eau de geler. Elle tendit un bras et fit signe à Prindine de boire pendant qu'elle l'interrogeait.
« Qu'avez-vous vu ? Vous n'êtes pas entré dans la ville, j'espère. Je vous avais interdit de franchir le mur d'enceinte. »«
Nous sommes restés à l'extérieur, »
répondit Prindine en passant l'outre à son frère.
« Mais ça suffisait, nous en avons vu assez. »
Quand Ossidine eut bu, Callan reprit l'outre et la reboucha.
« Avez-vous vu des gens ?»«
Oui, beaucoup, »
répondit Ossidine.
« Des morts ?»
précisa Prindine.
« Combien ? Et morts comment ?»« Au combat, des hommes armés. Plus que j'ai pu en compter. » De ma vie, je n'avais jamais vu autant de soldats. Il y a une guerre ici, et les vaincus ont été massacrés. »
Callan en resta muette d'horreur. Elle avait espéré que la population de la ville se serait échappée.
Une guerre. Les soldats de Dara avaient-ils commis ces horreurs après l'armistice, ou y avait-il une autre explication ? Je dois aller voir ce qui s'est passé,
dit enfin Callan.
Mère inquisitrice, ne faites pas ça,
murmura Prindine.
« C'est horrible !»
Les trois hommes suivirent l'inquisitrice quand elle se remit en chemin.
« J'ai déjà vu des cadavres. »
Ils aperçurent les premières dépouilles à une bonne distance des murs d'enceinte, apparemment le lieu d'une embuscade. Couverts de neige, certains morts tendaient encore une main, comme s'ils étaient en train de se noyer et appelaient à l'aide. Tous n'avaient pas été attaqués par des charognards, dépassés par l'abondance de nourriture. Il n'y avait là que des soldats de Galéa, pétrifiés par le froid à l'endroit où ils étaient tombés, leurs vêtements gorgés de sang durci comme une carapace. Sur le mur sud, à la place des solides portes en chêne renforcées de barres de fer, on ne distinguait plus qu'une brèche au contour carbonisé. Callan regarda le métal et la pierre fondue, consciente qu'une seule force avait pu faire cela. Du feu de sorcier.
Comment était-ce possible ? Elle ne se trompait pas, aurait-elle juré, mais il ne restait plus de sorciers. À part Zed, et en un sens, Richard, le vieil homme n'aurait jamais participé à de pareilles horreurs.
À l'extérieur des murs, de chaque côté de la brèche, des corps sans tête avaient été entassés méthodiquement. Les crânes formaient çà et là des piles bien moins ordonnées. Des monticules d'épées, de lances et de boucliers évoquaient quelques monstrueux porc-épics géants hérissés d'acier. Des exécutions en masse, organisées par postes successifs pour mieux gérer le nombre hallucinant de victimes. Toutes des soldats de Galéa, bien entendu.
« Pour dénombrer ces morts, dit Callan aux trois hommes, il faut utiliser la notion de milliers que vous ne connaissez pas. Il y a près de 5000 cadavres autour de ce mur. »
« J'ignorais qu'on pouvait compter jusque-là, »
souffla Prindine.
« Au printemps, cet endroit sera un enfer. »«
C'est déjà un enfer, »
murmura son frère dans leur langue. Et le pire restait à découvrir, pensa Callan. Connaissant la stratégie défensive d'Ebinitia, elle ne se faisait guère d'illusions. Le mur d'enceinte n'était plus une fortification imprenable comme jadis. La cité ayant grandi et prospéré dans des contrées du milieu apaisé, l'ancien mur avait été détruit, ses pierres utilisées pour bâtir le nouveau, davantage un symbole de la fierté et de la valeur de la cité qu'un véritable périmètre de défense. En cas d'attaque, on fermait les portes, et l'élite de l'armée se campait devant le mur pour empêcher les envahisseurs de l'atteindre. Aujourd'hui, les véritables défenses des Bénitia étaient les montagnes environnantes, dont les cols étroits interdisaient en principe un assaut en masse. Les forces de Dara, sur ordre de Darkenral, avaient assiégé la capitale 2 mois durant. Mais les défenseurs postés devant les murs avaient réussi à les repousser, puis à contre-attaquer, les convainquant d'aller se frotter à une proie moins coriace. Mais cette victoire avait coûté cher aux Ébiniciens. Moins occupés à trouver les boîtes d'Orden, Darkenral aurait sûrement envoyé des renforts afin de submerger les défenseurs par le nombre, mais cette fois quelqu'un y avait pensé. Les corps sans tête appartenaient au cercle de défenseurs extérieurs. vaincus au pied du mur. Ils avaient été exécutés sur place, sans doute pour démoraliser les hommes restés à l'intérieur. Ce qui attendait Callan et ses compagnons dans les rues de la ville serait encore pire. La fuite des femmes ne laissait aucun doute à ce sujet. Sans s'en apercevoir, Callan arbora son masque d'inquisitrice avant de se tourner vers les hommes d'Adobe.
Prindin et Tosidin, je veux que vous fassiez le tour de cette muraille d'enceinte. Notez tout ce que vous voyez et fournissez-moi un rapport détaillé. Il faut que je sache ce qui s'est passé, qui a attaqué et où sont allés ces monstres après le massacre. Chandalan et moi, nous inspecterons la ville. Rejoignez-nous quand vous en aurez terminé.
Les deux frères partirent aussitôt. Chandalan suivit l'inquisitrice, une flèche encochée dans son arc. Aucun des hommes n'avait discuté les ordres de Callan. Dépassé par l'énormité du drame, il restait conscient que l'inquisitrice avait des obligations vis-à-vis de ses morts. Évitant de regarder les cadavres qui gisaient un peu partout, Chandalan sonda les allées étroites qui serpentaient entre les cabanes en torchis des paysans et des bergers qui habitaient à la périphérie de la ville. Aucune empreinte fraîche ne se découpait dans la neige. Rien de vivant ne s'était aventuré ici récemment. Callan avança sans marquer de pause pour étudier les cadavres. Tous ces hommes, à l'évidence, étaient tombés les armes à la main.
« Ces braves ont été submergés par le nombre, »
déclara Chandalan.
« Par des milliers d'adversaires, comme tu dis. Ils n'avaient aucune chance de gagner. Ils se sont massés entre les bâtiments. C'est un mauvais endroit où combattre, mais ils n'avaient pas le choix. J'aurais recouru à la même tactique pour empêcher des forces supérieures de me balayer. » Le nombre n'est pas un aussi grand avantage dans ces petites allées. À leur place, j'aurais également interdit à l'ennemi de se développer, puis je l'aurais harcelé de tous côtés. Empêcher l'adversaire de se battre selon ses règles est toujours une bonne stratégie. Parmi les morts, il y a des hommes âgés et des jeunes garçons. Tout cela prennent les armes quand une situation est désespérée, pas avant. Par exemple, lorsque des soldats courageux vont être vaincus par le nombre face à un ennemi sans pitié.
Chandalan avait raison, dut admettre Callan. Tous avaient vu ou entendu les exécutions. Ces pauvres gens savaient qu'il n'y avait pas d'autre issue que la mort. Les défenseurs avaient plié comme des roseaux face à une tempête. À l'endroit où se dressaient jadis les vieux murs de la ville, un peu en hauteur, les morts étaient encore plus nombreux. Sans doute parce que les soldats avaient battu en retraite, tentant de défendre une position surélevée. Cela n'avait servi à rien, eux aussi étaient tombés comme des mouches. Il ne restait pas un seul cadavre d'attaquant. Certains peuples, se souvint Callan, pensaient qu'abandonner les morts sur un champ de bataille après une victoire portait malchance. De plus, cela livrait les esprits des vainqueurs à la vindicte de ceux des vaincus. À l'inverse, ne pas récupérer les morts suite à une défaite leur permettait de continuer à harceler l'ennemi. Les responsables de ce massacre, tenant de ces croyances, avaient emporté leurs camarades défunts loin des dépouilles des vaincus. Callan connaissait plusieurs royaumes des contrées où ces superstitions étaient scrupuleusement respectées. Un certain pays figurait en tête de sa liste. Alors qu'il contournait un chariot renversé, sa cargaison de petits bois répandue sur le sol, Chandalan s'arrêta devant une enseigne qui représentait une petite plante feuillue près d'un mortier et d'un pilon. S'abritant les yeux d'une main, il étudia la façade de la minuscule boutique.
« Quel est cet endroit ?»
demanda-t-il. Callan passa la première et franchit la porte défoncée.
« Une herboristerie, »
répondit-elle. Le comptoir était jonché de débris de fioles qui avaient contenu des herbes séchées. Seuls deux bouchons, parfaitement inutiles désormais, avaient survécu à la mise à sac du magasin.
Les gens venaient y acheter des plantes et des médicaments.
Derrière le comptoir, la grande armoire murale avait été démolie à coups de hache. Sur les centaines de petits tiroirs, seuls quelques-uns au pied du meuble étaient encore intacts. Les autres gisaient sur le sol, écrasés par des semelles de bottes. Chandalan s'accroupit, ouvrit quelques-uns des rares survivants, étudia rapidement leur contenu et les referma respectueusement.
Nicelle serait surprise de voir autant d'herbes médicinales. Détruire des substances qui aident les gens est un crime.
Un crime, oui,
acquiesça Callan. L'homme d'Adobe ouvrit un autre tiroir et cria de surprise avant d'en sortir avec révérence un petit bouquet de minuscules plantes liées à la tige par un morceau de fil. Les feuilles séchées couleur marron tirant sur le vert arborait de délicates veinures cramoisies.
« Du Kwashin Doré, »
murmura Chandalen.
« Et c'est quoi du Kwashin Doré ?»
demanda Kalan.
L'homme d'Adobe, sans le quitter des yeux, fit tourner le petit bouquet entre ses doigts.
« Le Kwashin Doré peut sauver la vie d'un homme s'il absorbe accidentellement le poison d'une flèche 10 pas, et aussi, s'il est assez rapide, le tirer de là quand il a été blessé par un de ses projectiles.
« Comment peut-on absorber ce poison accidentellement ?»«
Les feuilles de bandou doivent être longuement mâchées et humidifiées avant d'être cuites jusqu'à devenir une pâte épaisse. C'est ainsi qu'on fabrique le poison. Il suffit d'avaler sa salive au mauvais moment ou de mastiquer trop longtemps pour s'intoxiquer. »
Chandalen ouvrit la bourse en peau de daim qu'il portait au ceinturon et en sortit une petite boîte en os remplie d'une pâte brunâtre.
« Voilà le poison dont nous enduisons nos flèches. Si on en avale une infime quantité, on est malade. Et quand on en ingère davantage, on meurt très lentement. En grande quantité, cette substance tue très vite. Mais sous cette forme, personne n'aurait l'idée d'en consommer. »
Il referma la boîte et la remit dans sa bourse.
« Donc, en cas d'accident au moment de la fabrication, le Kwashin Doré peut empêcher un homme de mourir ?»
Chandalen acquiesça.
« Mais si on est blessé par une flèche 10 pas, ne meurt-on pas avant de pouvoir prendre l'antidote ?»«
Ça dépend. Il arrive qu'un chasseur s'égratigne avec une pointe de flèche. Dans ce cas, il a le temps d'agir. Quand on est blessé, eh bien, le poison est foudroyant uniquement si on est touché au cou. Là, on n'a pas le temps de prendre du Kwashin Doré. Si on reçoit la flèche ailleurs, par exemple dans une jambe, le poison met plus longtemps à agir et on peut s'en sortir.
Mais si le chasseur est loin de Nicel, imaginons qu'il chasse dans les plaines et qu'il se blesse avec une de ses flèches. Que lui arrive-t-il si la guérisseuse n'est pas là ?
Tous les chasseurs ont du Kwashin Doré sur eux, en prévision des accidents. Quand on traque du petit gibier, il y a très peu de poison sur les pointes de flèches, ça laisse plus de temps. Jadis, quand il y avait des guerres, nos braves soldats avalaient du Kwashin Doré juste avant la bataille, pour être insensibles aux flèches 10 pas de leurs ennemis.
Chandalen secoua tristement la tête.
« Mais il n'est pas facile de s'en procurer. La dernière fois que nous avons fait du troc pour un bouquet comme celui-là, chaque homme a dû céder 3 arcs et 2 poignées de flèches, et toutes les femmes ont fabriqué des coupes. Hélas, nous n'en avons plus depuis longtemps. Les gens qui nous le procuraient n'en trouvent plus. 2 hommes sont morts depuis que nous manquons d'antidote. Mon peuple donnerait cher pour avoir ce bouquet. »
Ému, Kalan regarda l'homme d'Adobe remettre religieusement le Kwashin Doré dans le tiroir.
« Prends-le, Chandalen, et offre-le à ton peuple qui en a tant besoin. »«
C'est impossible, »
dit le chasseur en refermant le tiroir.
« Le voler même à des morts serait très mal. Ce Kwashin Doré n'appartient pas aux miens, mais aux habitants de cette ville. »
Kalan s'agenouilla, rouvrit le tiroir et en sortit le précieux petit bouquet. Prenant un carré de tissu abandonné sur le comptoir, l'herboriste devait s'en servir pour envelopper les achats de ses clients. Elle l'enroula autour du Kwashin Doré.
« Prends-le »
répéta-t-elle en posant l'inestimable trésor dans la paume de Chandalen.
« Je connais les habitants de cette ville et je les dédommagerai un jour. Du coup, ce Kwashin Doré m'appartient. Accepte-le. C'est un cadeau pour compenser les ennuis que j'ai attirés à ton peuple. »«
Un cadeau d'une trop grande valeur !»
grogna Chandalen.
« Cela ferait de nous tes débiteurs jusqu'à la fin de ta vie. »
Alors disons que ce n'est pas un cadeau, mais un paiement pour le mal que Prindin, Tosidin et toi vous donnez. N'oublie pas que vous risquez vos vies pour moi. Ce salaire reste encore inférieur à ma dette. Vous n'aurez aucune obligation envers moi. »
Chandalen réfléchit un long moment. Puis il glissa le petit paquet dans sa bourse et la referma soigneusement.
« Donc c'est notre rétribution. Nous ne te devrons rien quand ce voyage sera terminé. »«
Rien du tout, »
confirma Kalan. Ils sortirent de la boutique et remontèrent les rues silencieuses le long des échoppes et des auberges de la vieille ville. Il ne restait plus une porte ou une fenêtre intacte. Des éclats de verre brillaient partout au soleil, tels des larmes versées sur la mort par les maisons. Les envahisseurs avaient fouillé tous les bâtiments et traqué jusqu'au dernier survivant.
« Comment ces milliers de gens, en vivant tous au même endroit, faisaient-ils pour nourrir leur famille ?
demanda Shandalen.
Il ne pouvait pas y avoir assez de gibier à chasser et de champs à cultiver pour tout le monde.
Kalan essaya de voir la cité avec les yeux de l'homme d'Adobe. Pour lui, ce devait être un grand mystère.
Tous n'étaient pas des chasseurs ou des fermiers. Les habitants de cette ville pratiquaient la division du travail.
Et ça veut dire quoi?
Tous avaient un métier différent. Une seule occupation, si tu préfères. Ils utilisaient de l'or ou de l'argent pour acheter ce qu'ils fabriquaient ou ne faisaient pas pousser eux-mêmes.
Et d'où tiraient-ils cet argent et cet or?
Les gens payaient ainsi leurs services ou ce qu'ils fabriquaient.
Et ceux-là, d'où tenaient-ils leur or?
Des gens qui les payaient pour leurs services.
Pourquoi ne pas faire du troc? C'est beaucoup plus simple.
En un sens, c'est du troc. Imagine qu'une personne veuille quelque chose que tu possèdes, mais ne détienne rien qui t'intéresse. Dans ce cas, elle te donne une pièce ronde faite avec de l'argent ou de l'or et tu peux acheter ce dont tu as besoin.
Acheter,
répéta Shandalen, comme s'il essayait de goûter cet étrange mot avec sa langue.
Pourquoi travailler dans ce cas? Il suffit de se procurer des pièces d'or et d'argent et on peut vivre facilement.
Certaines personnes le font. Elles chassent l'or et l'argent en quelque sorte, mais c'est un dur labeur car il faut creuser la terre pendant longtemps pour trouver un peu d'or. C'est pour ça qu'on fabrique des pièces avec, à cause de sa rareté. S'il était aussi facile à trouver que du sable sur une plage, personne n'en voudrait comme monnaie d'échange. Si les pièces s'obtenaient ou se fabriquaient sans peine, elles perdraient leur valeur. Alors ce système qu'on appelle le commerce s'écroulerait et tout le monde crèverait de faim.
« Avec quoi fait-on les pièces ?»
demanda Shandalen en s'arrêtant de marcher.
« Cet or et cet argent dont tu me parles, que sont-ils ?»
Kalan continua de marcher et il dut se fendre de quelques grandes enjambées pour la rattraper.
« L'or est le bijou que les Bantak ont offert à ton peuple en gage de paix. » Est en or.
Shandalen hocha la tête, l'air entendu. Cette fois, Kalan s'arrêta de marcher.
Tu sais où les Bantak se procurent tant d'or?
Bien entendu, c'est nous qui le leur donnons.
Kalan agrippa la manche du manteau de Shandalen et le força à se tourner vers elle.
Comment ça, vous le leur donnez?
Le chasseur se raidit. Il détestait qu'une inquisitrice pose la main sur lui. Si elle décidait de libérer son pouvoir, la fourrure du manteau ne serait pas une protection. Ces femmes pouvaient atteindre un homme à travers une armure. Kalan le lâcha et il se détendit aussitôt.
Shandalen, où le peuple d'Adobe trouve-t-il de telles quantités d'or?
Le chasseur regarda la jeune femme, comme si elle venait de lui demander où on pouvait se procurer de la poussière.
Dans des trous au nord de notre territoire. C'est une zone rocheuse où rien ne pousse et il y a des trous partout. Dedans, on y trouve ce métal jaune. C'est un endroit dangereux. L'air est très chaud et mauvais pour les poumons. Il paraît qu'on risque de mourir si on reste trop longtemps dans ces crevasses. L'or, comme tu l'appelles, est trop mou pour faire de bonnes armes, donc il ne nous sert à rien.
Il eut un geste nonchalant.
Les Bantak disent que les esprits de leurs ancêtres aiment voir briller ce métal inutile. Alors nous les laissons entrer sur notre territoire et descendre dans ces fameux trous. Ils prennent l'or et fabriquent des objets que les esprits de leurs ancêtres ont plaisir à regarder quand ils viennent dans notre monde.
Shandalen, à part les Bantak, quelqu'un d'autre connaît-il l'existence de ces trous?
Tu sais que nous ne laissons pas les étrangers entrer chez nous. Mais quelle importance! Ce métal est trop mou, donc nous n'en avons rien à fiche. Il plaît aux Bantak, et comme nous faisons beaucoup de troc avec eux, nous les laissons prendre ce qu'ils veulent. Mais ils ne vont pas souvent là-bas, parce que c'est dangereux. Personne ne s'y aventure, sauf eux, pour plaire aux esprits de leurs ancêtres.
Comment Kalan pouvait-elle expliquer cela à Shandalen, qui ne savait rien du fonctionnement du monde extérieur?
Mon ami, vous ne devez jamais utiliser cet or.
Le chasseur fit la moue. Ne venait-il pas de lui expliquer que ce métal ne servait à rien et que personne n'en voulait?
Vous le jugez sans valeur, mais certains hommes tueraient pour s'en procurer. Si ces gens-là apprennent qu'il y en a chez vous, ils vous massacreront pour l'avoir. La soif d'or rend fou certains individus. Ce serait la fin du peuple d'Adobe.
Shandalen bomba le torse, lâcha la corde de son arc et se tapota la poitrine.
« Mes chasseurs et moi sommes là pour protéger les nôtres. Nous refoulerons les étrangers. »
D'un geste circulaire, Kalan désigna les centaines de morts qui les entouraient.
« Contre tant d'ennemis? Des milliers et des milliers? Des hordes qui ne renonceront pas avant de vous avoir exterminés? »
Les esprits de nos ancêtres nous ont conseillé de ne jamais parler de ces trous et de l'or. Seuls les Bantak ont le droit d'aller là-bas, personne d'autre.
Veille à ce qu'il en soit toujours ainsi. Sinon des hommes viendront et vous voleront.
Prendre ce qui appartient à un peuple est très mal,
déclara Shandalen en armant de nouveau son arc. Kalan ne put retenir un soupir d'exaspération.
Si je fabrique un arc pour l'échanger, tout le monde sait que c'est l'œuvre de Shandalen, parce que l'arme est magnifique. Alors, si un voleur s'en empare, chacun le verra, et il sera tôt ou tard attrapé et obligé de le rendre. Ensuite, il risquera d'être banni par les siens. Comment savoir à qui appartiennent les pièces si un voleur les prend ?
Expliquer ces choses à l'homme d'Adobe risquait de flanquer une migraine carabinée à Kalan. Au moins, ça l'empêchait de penser aux cadavres qui les entouraient. Elle recommença à marcher et enjamba un mort. Impossible de faire autrement, les défenseurs étaient tombés trop près les uns des autres.
Tu as raison, c'est très difficile à savoir. À cause de ça, les gens font très attention à leurs pièces. Quand un voleur est pris, sa punition est sévère pour décourager les autres.
Comment le punit-on ?
S'il n'a pas volé grand-chose et qu'il a de la chance, on le met sous les verrous jusqu'à ce que sa famille ait remboursé ses victimes.
Sous les verrous ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Un verrou empêche d'ouvrir une porte. Les petites pièces où on enferme les voleurs ont des portes qu'on ne peut pas ouvrir de l'intérieur. Pour sortir, il faut avoir la clé.
Shandalen sonda une rue au coin d'une orfèvrerie et fit signe qu'il pouvait continuer à remonter la rue principale.
« Je préférais être exécuté plutôt qu'enfermé ainsi.
Si le voleur n'a pas de chance ou s'attaque à la mauvaise personne, c'est ce qui lui arrive. »
Shandalen émit un grognement désapprobateur. Kalan se demanda si elle était très douée pour expliquer le monde à un homme d'Adobe. Celui-là, en tout cas, semblait trouver absurde tout ce qu'elle lui révélait.
« Notre façon de vivre est préférable. Nous faisons ce que nous voulons et chacun produit ce dont il a besoin. Ta division du travail ne vaut rien. Nous pratiquons très peu le troc et c'est mieux comme ça. »
« Vous faites les mêmes choses que les habitants de cette ville, Shandalen. Tu ne t'en aperçois pas, mais c'est pourtant ainsi. »
« Non. Chaque personne maîtrise beaucoup de choses. Nous enseignons à nos enfants tout ce que nous savons pour qu'ils subviennent seuls à leurs besoins. Vous pratiquez aussi la division du travail. Par exemple, tu es un chasseur et surtout le protecteur de ton peuple. Presque tous ces défunts étaient des soldats, chargés de protéger les leurs, comme toi. Et ils sont morts en essayant de le faire. Toi aussi, tu es un soldat. Tu es fort, tu sais te servir d'un arc et d'une lance, et ton esprit est formé à découvrir et à déjouer les plans que tes ennemis ourdissent pour nuire à ton peuple. C'est peut-être vrai pour moi parce que je suis fort et intelligent. Mais les autres ne se partagent pas le travail.
Tu te trompes. Nicelle, par exemple. Sa mission est de s'occuper des malades et des blessés. Elle passe son temps à soigner les autres. Comment se nourrit-elle ?
Ceux qu'elle a guéris lui donnent de quoi manger. Et s'il n'y a personne à soigner, les villageois qui ont des vivres en plus les lui offrent pour qu'elle survive et soit prête à les aider le cas échéant. Tu comprends ?
On la paie avec du tabac et des légumes. Mais ce serait presque pareil si on la rétribuait avec des pièces. Comme son travail est de secourir le village, chacun participe à son entretien afin qu'elle soit en forme quand on a besoin d'elle. Dans d'autres coins du monde, ici par exemple, on appelle cela un impôt, des pièces qu'on donne pour le bien de la communauté, afin d'aider à vivre ceux qui se dévouent pour les autres.
C'est comme ça que tu obtiens ta nourriture ? Chacun te donne un peu comme nous quand tu viens nous attirer des ennuis ?
Pour la première fois, il avait dit cela sans aucune hostilité. Kalan en fut sincèrement soulagé.
Exactement.
En marchant, Shandalen surveillait les fenêtres vides d'un deuxième étage ravagé. À mesure qu'ils avançaient, les bâtiments devenaient plus grands et plus sophistiqués. En passant devant une auberge à la porte arrachée, Kalan aperçut devant le comptoir le cadavre d'un garçon de cuisine qui devait avoir à peine 12 ans.
Ton raisonnement marche pour les chasseurs et Nicelle,
concéda Shandalen.
Pas pour tous les autres.
Chacun se partage le travail, mais à des niveaux différents. Les femmes cuisinent le pain de Tava et les hommes fabriquent les armes. La nature aussi fonctionne comme ça. Certaines plantes poussent sur des sols humides et d'autres en terrain sec. Parmi les animaux, il y en a qui mangent de l'herbe et d'autres qui se nourrissent d'insectes et d'autres encore qui dévorent les membres des deux premières catégories. Chaque chose a un rôle à jouer. Les femmes font les enfants et les hommes...
Kalan s'arrêta et regarda les cadavres tout autour d'elle.
« Et les hommes, semble-t-il, se chargent de tuer tout ce qui bouge. Tu vois, Shandalen, Le travail des femmes est de donner la vie, celui des hommes de la reprendre. »
Callan se plaqua un poing sur l'estomac. Prise de nausée et de vertige, elle était dangereusement près de perdre son contrôle.
« L'homme oiseau, »
fit Chandalen en la regardant du coin de l'œil,
« dirait qu'il ne faut pas juger tous les êtres à partir des exactions d'un petit nombre. En plus, les femmes ne font pas les enfants toutes seules, les hommes y participent aussi. »
Callan lutta pour respirer l'air glacial. Au prix d'un violent effort, elle se ressaisit et recommença à marcher.
Visiblement désireux de changer de sujet, Chandalen désigna quelque chose en braquant son arc dessus.
« Pourquoi fabrique-t-il des gens en bois dans cette ville ? »
demanda-t-il. Un mannequin sans tête, vêtu d'une robe bleue brodée, dépassait de la vitrine fracassée d'une boutique de mode. Heureuse de cette diversion, Callan s'en approcha.
« C'est le magasin d'un tailleur. Quelqu'un dont le métier est de fabriquer des vêtements. Cette femme en bois lui permettait d'exposer son travail pour que tout le monde sache qu'il faisait de belles choses. Cet artisan devait être très fier de ses réalisations. »
La couleur de l'ensemble, effectivement magnifique, rappela à Callan la robe de mariée que Weslan lui avait confectionnée. Alors que Chandalen, après avoir regardé autour de lui, tendait une main pour toucher le somptueux tissu, l'inquisitrice étouffa difficilement un cri d'horreur. Dans la boutique, derrière le comptoir, un petit homme chauve était piqué à une cloison, comme un papillon, par la lance qui lui dépassait de la poitrine. Une femme gisait sur le comptoir, sa robe et ses sous-vêtements enroulés autour de sa taille. Entre ses fesses bleuies par le froid dépassaient les deux anneaux d'une paire de ciseaux. Callan se détourna de la boutique et croisa le regard de Chandalen. Il était rouge de fureur.
« Tous les hommes ne sont pas pareils, »
dit-il les dents serrées.
« Si un de mes chasseurs faisait ça, je l'exécuterais sur le champ. »
Callan n'avait aucune réponse à ça. D'ailleurs, parler ne lui disait plus rien. En repartant, elle desserra un peu les pans de son manteau, espérant que l'air glacial lui ferait du bien. En silence, ils passèrent devant des écuries où tous les chevaux avaient été égorgés. Puis longèrent une auberge et des maisons aussi dévastées pour le simple plaisir de les souiller que les précédentes. Il faisait plus froid à l'ombre des balcons de ces demeures, mais Callan ne s'en soucia pas. Sur leur chemin, ils durent enjamber des cadavres couchés sur le ventre, des plaies béantes dans le dos. Au milieu des chariots et des carrosses renversés, des chevaux et des chiens morts gisaient à côté de leur maître, comme s'ils voulaient témoigner par leur fidèle présence de la folie des responsables de cette boucherie. Soudain glacé, Callan resserra les pans de son manteau. Le froid la vidait de ses forces. Avec une détermination opiniâtre, elle se força à poser un pied devant l'autre, en route pour une destination qu'elle espérait dans le secret de son âme ne jamais atteindre. Dans le charnier glacé d'Ebinitia, une idée s'imposa à elle, poignante comme une prière. « Par pitié, esprit bien-aimé, faites que Richard n'ait pas froid. »